Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette soirée que nous avons proposée avec le Goethe-Institut et la Bibliothèque franco-allemande dans le cadre du festival Lettres du Monde 10e édition qui se clôture bientôt et qui a commencé début octobre et qui a consacré une grande partie de sa programmation à la littérature de langue allemande puisque nous avons eu le plaisir d'évoquer au mois d'octobre l'œuvre de Robert Walser, puis ensuite d'accueillir les écrivains Peter Stamm et Matthias Schocke, d'évoquer l'œuvre de Sebald, et nous concluons ce programme consacré à la littérature de langue allemande avec la présence de Jean-Pierre Lefebvre à l'occasion de la parution dans la bibliothèque de la Pléiade de deux volumes qu'il a dirigés, dont il a assuré une grande partie de la traduction et dont il a assuré également la préface et qu'il va évoquer ce soir avec nous l'œuvre de Stefan Zweig. Et pour commencer ce programme, nous avons eu envie de faire entendre une nouvelle de Stefan Zweig qui donc a été traduite par Jean-Pierre Lefebvre et choisie par Jean-Pierre Lefebvre, qui s'appelle Le Redoublant et qui va être lue en préambule par Martina Magneux de la compagnie L'Âne Bleu. Voilà. Je remercie bien sûr le Goethe-Institut et Jutta Bechstein qui va vous dire quelques mots de Jean-Pierre Lefebvre et de cette soirée. Très bonne lecture et rencontre.
Merci Olivier. Nous sommes naturellement très heureux d'accueillir ce soir Jean-Pierre Lefebvre qui est un habitué déjà de ces lieux. Je crois qu'on n'a presque pas besoin de le présenter. Rappelons quand même qu'il a été professeur de littérature allemande à l'école normale supérieure, qu'il est le traducteur de Hegel, Marx, Freud, aussi d'une anthologie de la poésie allemande dans la Pléiade, de Hölderlin, de Celan, et je crois que je vais m'arrêter maintenant. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir ce soir et je ne vais pas tarder à lui passer la parole ou plutôt à notre comédienne. Merci. D'ailleurs, Jean-Pierre Lefebvre va quand même vous lire quelques mots aussi en allemand.
Passant devant le clocher, il vit qu'il était déjà grand temps. Il serra plus fort ses livres de classe sous son bras et imprima à son allure paresseuse un tempo moins relâché. Mais il eut au fait de s'en départir de nouveau. La chaleur estivale qui tombait du ciel de midi l'avait rempli d'indolence. Et pour tout dire, il ne trouvait pas si important que ça d'arriver à l'heure à un cours de grec. Il continua donc à trottiner nonchalamment sur le pavé brûlant qui lui renvoyait le rayonnement d'une fournaise étouffante en direction de l'école. Une fois arrivé, il se rendit compte qu'il avait déjà 10 minutes de retard et passa encore un moment à se demander s'il ne ferait pas mieux de faire demi-tour. Mais le seul fait de songer à la reprise des ennuyeuses séances de prédication familiale qui l'attendaient au repas lui parut si pénible qu'il se dirigea résolument vers la salle de classe et ouvrit la porte d'une poussée énergique. De le voir ainsi arriver, soudain, provoqua quelques sensations. Vers l'arrière, on entendit un petit rire supérieur, et de même, devant, sur les premiers bancs, il ne vit que des regards moqueurs qui le dévisageaient avec mépris. Et de là-haut, enfin, sur son estrade, le professeur le regarda avec un sourire satisfait et lui dit sans forcer la voix, avec une sorte de dédain méprisant, « Cela aurait vraiment été un miracle que vous arriviez pour une fois à l'heure, Liebmann. Vous déployez à être en retard un zèle et une endurance qui, pour le reste, vous font généreusement défaut. » Les petits ricanements parcouraient maintenant toute la classe, avec des beuglements braillards en contrepoint. Tous les yeux étaient tournés vers Liebmann. Lui ne répondit rien. Son visage demeura impassible, mais il eut du mal à se contenir quand il remonta la rangée de visages extasiés pour regagner sa place. Ce qui brûlait en lui, c'était une souffrance profonde, une colère déchaînée qu'il retenait comme chaque fois qu'il vivait ce genre de scène cruelle. Il ouvrit son livre d'un geste mécanique, sans même s'occuper de la page et sans penser à rien, fixa les lettres jusqu'à ce qu'elles se mettent à danser sous ses yeux, leurs valses tremblantes et moites, leurs valses tremblantes et noires. Et tous les sons et toutes les paroles prononcées dans la pièce se fondirent en un unique bruit de fond dépourvu de sens, dont la laideur torturait ses oreilles. Son indifférence à tout pesait sur lui comme une chape de plomb. Devant lui, le soleil faisait miroiter quelques cercles lumineux sur son pupitre. Il dansait comme une bande d'enfants sautillant dans les mille reflets d'une ronde joyeuse, et leurs couleurs chatoyantes glissaient comme de souples mains blanches à la surface du bois. Liebmann les contemplait, les yeux fixes, avec curiosité et sans les voir. Il était perdu dans son rêve, absent. La veille, un hasard de plus lui avait tendu sous les yeux le miroir de son existence, tandis qu'il rentrait chez lui, quand il avait croisé les garçons de son âge qui n'avaient pas redoublé, aujourd'hui étudiants ou sous-lieutenants, qu'il avait tous bien aimés et qui le saluaient maintenant avec un drôle de mépris et une sorte de fierté muette, parce qu'il était encore en classe avec les écoliers imberbes, contraints d'écouter les salades sans goût, débitées sur un ton ennuyeux. Il sentit sourdre dans sa gorge comme un rire brûlant de fureur et de désespoir. S'étonna presque de ne pas se jeter à terre en éclatant en sanglots comme un petit enfant, ou de ne pas se lever d'un bond pour venir cracher à leurs pieds. Peu à peu, il se calma. Il se mit à analyser sa douleur. Il la disséqua au scalpel avec cette froideur cruelle que seule la plus profonde souffrance peut délivrer. Était-il donc si seul avec sa destinée? Il savait bien qu'il y avait encore des milliers de gens qui souffraient le même sort, que c'était une tragédie quotidienne qui se jouait dans son existence. Mais il lui semblait que personne encore ne l'avait éprouvé de manière aussi rude. Un gâchis. C'est qu'il en existait encore de nombreux sur cette terre. Mais ce qui renouvelait sans cesse son tourment, c'était de penser au commencement de tout cela, à cet examen qu'il avait d'abord raté. Avec quelle légèreté l'avait fait échouer ce professeur, celui-là même qu'il voyait là, assis, à 20 pas de lui, et qui ne lui prêtait pas attention, qui n'avait peut-être jamais de toute son existence réfléchi une seule minute, une seule seconde à ce qu'il avait mis en branle par une décision superficielle. S'était-il dit combien d'un seul coup il avait interdit à jamais l'hypothèse d'un progrès et violemment refoulé toute une existence dans les profondeurs d'une autre voie? Il se rappelait encore avec netteté le renversement qui s'était produit en lui quand pour la première fois il avait perdu une année. Lentement, son ardeur au travail excessive et malheureusement inefficace était retombée. Elle s'était mollement muée en apathie. Son intérêt pour l'art et la littérature s'était brutalement brisé et il ressentait encore jusque dans les ultimes ramifications de son énergie vitale la brutalité de ce coup. Peu à peu, son énergie avait fondu et sa vie intellectuelle s'était dissipée de plus en plus dans la fantasmagorie de rêves stériles qui n'avait que lui-même comme centre et lui faisait miroiter 1000 personnages et succès que par manque de force il ne pouvait conquérir dans la vie réelle. Ainsi commença-t-il à sombrer peu à peu, à se laisser aller et ne plus rien faire. Et quand pour la deuxième fois il perdit une année, il ne ressentit plus rien du tout, mais il constata qu'il était en train de glisser sans pouvoir arrêter la chose. D'être encore sur les bancs de l'école à 21 ans était la seule souffrance qu'il ne parvenait pas à surmonter et qui lui faisait oublier tout le reste. Et il n'avait de cesse de fouiller dans les causes qui le ramenaient toujours à ce point unique, à cette journée où par hasard, uniquement par hasard, il avait échoué à l'examen. Et peu à peu, dans cette rumination permanente, une sombre pensée avait éclos, une simple hypothèse sans consistance qui s'imprimait comme une certitude dans sa réflexion rétrospective, maladive et violente, la certitude que ça ne pouvait pas avoir été un hasard, qu'une haine secrète, une cause cachée, avait nécessairement animé le professeur. Et depuis, cette conviction avait enfoui en lui de profondes racines. La haine était devenue la tonalité majeure de son âme. Il se mettait déjà à trembler sous la violence envahissante de ses sentiments chaque fois qu'il le regardait en face. Lui, là-haut, avec son visage jauni de pasteur protestant. Comme il avait l'air menteur, obtus, quand il débitait de sa voix grasse des trucs sans intérêt, avec le sérieux imperturbable et satisfait de celui qui ne se reconnaît aucune erreur. Et c'est cet homme-là qui était censé disposer du pouvoir de lui donner des ordres, de décider de sa vie, et qui en avait effectivement décidé. Cette seule pensée contractait tous ses nerfs, douloureusement. Il sentait son poing se serrer tout à fait inconsciemment et ses yeux, au comble de la haine, ne plus pouvoir le lâcher. À ce moment précis, le professeur se tourna vers lui et capta son regard. Il semblait ne rien avoir remarqué, mais aux commissures de ses lèvres s'était durcie une inflexion mauvaise. D'une voix indifférente, il le héla. « Lippmann, vous feriez mieux quand même de regarder dans votre livre et de faire attention au lieu de bâiller aux corneilles. » Lippmann sursauta. L'idée de devoir se laisser faire la leçon était comme un brasier en feu dans tout son être. Une brusque bouffée de défi monta en lui. Cette fois, pas question de devoir se taire. « J'ai fait attention, monsieur le professeur. » « Eh bien, tant mieux pour vous, Lippmann. Répétez alors ce que j'ai dit. » Il avait dit ça sur un ton très calme, sans doute même sans aucune intention. Mais Lippmann y percevait une vile bassesse. Rien ne sortait de sa bouche et ses lèvres se mordaient convulsivement. Mais l'obscur pressentiment montait en lui qu'à partir de cette futilité pût se développer une catastrophe, que le destin voulait répéter son jeu cruel de tous les jours et tirer du plus infime des petits riens les conclusions les plus imprévisibles. Il savait que quelque chose nécessairement allait arriver, car il sentait en lui le courage et le désespoir prendre consistance, la haine de milliers et de milliers d'heures confluées en un large fleuve qui voulait se frayer un passage. Mais il eut encore la force de se contenir et resta silencieux, les lèvres livides et tremblantes. Le professeur attendit quelques secondes, puis il dit sans la moindre trace d'énervement « Donc, vous ne savez rien ?» Et vous avez menti. Ce fut l'élément décisif, plus question de faire machine arrière. Lippmann savait qu'il luttait pour une cause perdue, mais il savait aussi que tout ce qui brûlait en lui de sentiments contenus devait finir par s'exprimer. Si ce n'était pas aujourd'hui, ce serait demain. Et par-dessus tout, ça montait parmi les élèves un bourdonnement et des ricanements qui l'énervaient. Ne plus faire partie de tout ça, quoi qu'il arrive. Sa voix retentit, claire et décidée. « Je n'ai pas menti. Je peux répéter. »« C'est donc que vous ne voulez pas ?»« Non, je ne veux pas parce que c'était du baratin. » Le mot frappa comme l'éclair. Les sourires satisfaits étalés sur les visages qui avaient suivi l'échange dans l'attente du dénouement se figèrent d'un coup. Tout le monde sentait qu'une tragédie de grande portée se débattait pour faire éclater cette atmosphère d'orage. Le plus calme de tous était encore Lippmann. Il avait provoqué une issue violente parce qu'il la voulait et maintenant c'était fait. Le professeur eut bientôt repris la contenance que ces mots inattendus lui avaient fait perdre. Il descendit d'un seul coup jusqu'à Lippmann et dit dans un râle d'une voix tremblante d'excitation « Vous êtes un insolent !» Insolent vous-même. » Ces mots coupèrent brutalement la phrase du professeur. Puis il y eut une espèce de phase confuse, comme dans une risque. Personne ne sut qui avait levé la main le premier. Mais la colère était si furieuse et toute puissante chez l'un et l'autre qu'elle s'exprima involontairement dans la brutalité. Toute la scène ne dura qu'une seconde, puis Lippmann donna de toute la force de sa haine un coup au professeur qui le fit reculer en titubant. Tous les élèves avaient sauté de leur banc, en proie à une excitation aveugle. Un vacarme dément emplit la salle, mais avant qu'ils aient pu intervenir, Liebmann avait décroché sèchement son chapeau de la patère et jailli hors de la classe en claquant bruyamment la porte derrière lui avec fureur. Sortir d'ici, sortir, sans savoir où aller ni quoi faire. Pendant une heure, il avait erré en tous sens. Puis ses cogitations avaient mûri. Il avait pris sa décision. Il avait pensé à tout. 1000 images de toute nature étaient montées dans son esprit. Sa jeunesse, son avenir, ses parents. Mais chacune de ces images avait tourné son acte de telle manière qu'elle n'était plus pour lui que l'indicateur d'une direction à prendre. Une main impérieusement tendue vers l'obscurité du dernier sentier. Son pas s'était accéléré involontairement et il se mit à courir. Dans sa tête surgirent encore à la vitesse de l'éclair d'infimes espoirs et de vagues hypothèses. Mais il ne s'arrêta pas, il continua de courir, courir. Ses oreilles étaient pleines de la pétarade tonitruante des voitures, du vacarme de la rumeur diffuse des gens qui glissaient sans le voir ni savoir, et du bruit de sa propre course effrénée. Il courait de plus en plus vite, comme pour assourdir sa moindre pensée, et dans son cerveau ne bourdonnait plus qu'un seul bout de phrase, « Dépêche, dépêche ». Tout épousait le rythme de ces mots et confluait en un unique bruit de fond, un vacarme dément qui émoussait tous ses sens. Il arriva au pont. Une fois là, il s'arrêta une minute, non par peur de ce qu'il allait faire, mais parce que ses bras tremblants n'avaient pas assez de force pour qu'il franchisse la rambarde. Une fois encore, il eut le souvenir de son existence détruite, mais déjà une poussée brutale faisait trembler tout son corps. D'un coup, il franchit la rambarde et son corps fila tout droit dans les eaux grises.
Donc, comme promis, je vais lire un saint passage, la fin de la nouvelle en langue allemande pour ceux qui sont attentifs justement à la différence entre les deux textes, et ce sera évidemment plus bref.
In diesem Augenblick wandte sich der Professor ihm zu und fing den Blick auf. Er schien nichts zu bemerken, nur um die Mundwinkel verschärfte sich der harte, grämliche Zug, und mit gleichgültiger Stimme sagte er: Liebmann, Sie täten es besser, in Ihr Buch zu schauen und Acht zu geben, als in die Luft zu gaffen. Liebmann zuckte zusammen. Der Gedanke, sich schulmeistern lassen zu müssen, war ihm wie ein glühendes Brandmal. Ein jäher Trotz stieg in ihm auf. Nur jetzt nicht schweigen müssen. Ich habe Acht gegeben, Herr Professor. Umso besser von Ihnen, Liebmann, dann wiederholen Sie jetzt, was ich sagte. Es war ganz ruhig gesagt, wahrscheinlich sogar absichtslos. Aber Liebmann fühlte darin eine gemeine Niedertracht. Er wusste kein Wort und biss die Lippen krampfhaft zusammen. Aber eine dunkle Ahnung wurde wach in ihm, dass sich aus dieser Lappalie eine Katastrophe entwickeln könnte, dass das Schicksal sein alltägliches, grausames Spiel wiederholen wollte und aus der niedrigsten Nichtigkeit seine unabsehbaren Konsequenzen zog. Er wusste, dass es zu etwas kommen musste, denn er spürte in sich den Mut und die Verzweiflung feste Form gewinnen, den aufgespeicherten Hass von tausend und abertausend Stunden zu einem breiten Strom zusammenfließen, der sich Bahn brechen wollte. Aber noch gewann er Gewalt über sich und schwieg mit blassen, zitternden Lippen. Der Professor wartete einige Sekunden, dann sagte er ohne jede Spur von Erregung: Sie wissen also doch nichts und haben vorhin gelogen. Das war die Entscheidung. Nun gab es kein Zurück mehr. Liebmann wusste, dass er für eine
verlorene Sache kämpfte, aber wusste auch, dass alles, was in ihm von verhaltenen Gefühlen brannte, zur Aussprache kommen musste. Wenn nicht heute, so morgen. Und dazu noch das wachsende Surren und Kichern unter den Schülern, das ihn erregte. Nur nicht mehr dazugehören, was auch kommen sollte. Und seine Stimme klang klar und entschlossen. Ich habe nicht gelogen, ich kann es wiederholen. Sie wollen also nicht. Nein, ich will nicht, weil es eine haltlose Schwätzerei war. Das Wort schlug ein wie ein Blitz. Das zufriedene Lächeln auf den Gesichtern, die erwartungsvoll den Wortwechsel begleitet hatten, erstarrte bei allen. Jeder fühlte, dass sich hier aus der gewitterschweren Atmosphäre eine Tragödie von weittragender Bedeutung losrank. Liebmann selbst war am ruhigsten. Er hatte einen gewaltsamen Abschluss herbeigeführt, weil er ihn haben wollte. Nun war es geschehen. Der Professor hatte bald die Fassung wiedergewonnen, die er bei dem unerwarteten Wort vollkommen verloren hatte. Rasch traf er auf Liebmann zu und sagte mit keuchender, vor Erregung bebender Stimme: Sie sind ein Frechling, Selbstfrechling. Das Wort schnitt dem Professor den Satz jäh ab. Und dann war plötzlich ein Wirren und Drängen wie bei einem Handgemenge. Keiner wusste, wer zuerst die Hand gehoben, aber der Zorn war in beiden. So rasend und drängend, dass er sich unwillkürlich in Brutalität äußerte. Die ganze Szene dauerte nur eine Sekunde. Dann versetzte Liebmann mit der äußersten Kraft des Hasses dem Professor einen Stoß, dass er zurücktaumelte. Alle Schüler waren in blinder Erregung aufgesprungen. Ein dröhnender Lärm brauste durch das Zimmer. Aber ehe sie noch tätig eingreifen konnten, hatte Liebmann seinen Hut vom Haken gerissen und stürmte aus der Klasse, die Tür hinter sich mit dröhnender Wucht zuschlagend, hinaus, nur hinaus, ohne Ziel und Plan. Eine Stunde war er umhergeirrt, dann hatte sich sein Sinnen zum Entschluss gereift. An alles hatte er gedacht. Tausend bunte Bilder waren vor ihm aufgestiegen, seine Jugend, seine Zukunft, seine Eltern, aber jedes hatte seine Tat so gewendet, dass es ihm nur ein Wegweiser wurde, der seine führende Hand zum letzten dunklen Pfad hinstreckte. Und unwillkürlich hatte sich sein Schritt beschleunigt und er begann zu laufen. Noch tauchten kleine Hoffnungen und vage Vermutungen in blitzartiger Raschheit vor ihm auf, aber er hielt nicht inne, sondern lief und lief. Die Ohren dröhnten ihm vom Donnern der Wagen, vom Poltern der Straße, vom Surren der Leute, die achtlos und unwissend an ihm vorüberglitten. Und von seinen eigenen hastigen Schritten. Immer rascher lief er, wie um jeden Gedanken zu betäuben, und sein ganzes Gehirn summte nur einen Satz: nur rasch, nur rasch. Alles klang im Rhythmus dieser Worte und verströmte zu einem wirren, tosenden Lärm, der ihn stumpf und unempfindlich machte. So kam er zur Brücke. Dort blieb er eine Minute stehen, aber nicht aus Angst vor der Tat, sondern weil seinen zitternden Armen die Kraft fehlte, sich übers Geländer zu schwingen. Einmal noch tauchte die Erinnerung an sein zerstörtes Leben auf und wie ein jäher Ruck durchbebte es schon seinen Körper. Mit einem Schwung war er über der Rampe und sauzte blitzartig hinab in die graue Flut. Voilà. Mais je remercie d'abord notre amie comédienne d'avoir lu ce texte. C'est toujours pour le traducteur non seulement un plaisir, mais c'est aussi une leçon que d'écouter le texte lu par quelqu'un d'autre que soi-même et animé par d'autres ductus. C'est les deux à la fois, donc c'est un plaisir et en même temps c'est extrêmement instructif. Et dans l'espèce, je pense que c'était tout à fait adéquat à la fonction de prévue pour cette soirée de présenter Stefan Zweig, car sa manière n'a pas considérablement varié au cours de son existence, en tout cas de son existence productive de texte, qui a commencé très tôt. Le texte que vous avez entendu, donc, qui raconte le suicide d'un jeune adolescent traumatisé par des expériences d'échecs scolaires, sujet est malheureusement très connu, a été écrit par Stefan Zweig lorsqu'il n'avait pas 20 ans. C'est très surprenant de trouver une pareille maturité dans l'écriture, et non seulement dans l'écriture, mais dans l'aptitude à décrire des processus psychiques qui peuvent dérailler, enfin qu'il est difficile de contrôler. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite, et donc de la réussite précoce. Et c'est dans cette intention que j'ai choisi ce texte pour introduire, non seulement ce soir, mais je l'ai déjà fait une autre fois pour introduire à la présentation de l'auteur, non seulement pour attirer l'attention sur cette précocité qui n'est peut-être pas toujours perçue, et qui explique bien des choses dans l'existence de Stefan Zweig et dans la façon dont son œuvre s'est développée, mais c'est aussi parce que cette brève nouvelle contient un éventail de thèmes plus ou moins discrètement exposés qui vont s'installer chez lui de manière durable et qui vont faire au bout du compte système avec sa propre décision de mourir à Petropolis au Brésil en février 1942 quand il s'est donné la mort en compagnie de son épouse Lotte Altmann. Donc cette nouvelle se trouve dans un recueil de nouvelles qui datent d'époques assez différentes dans l'existence de Zweig, mais qui ont été regroupées selon un principe thématique. Et on a trouvé suffisamment de nouvelles chez Zweig qui se terminaient par un suicide pour en faire un volume non seulement consistant, mais parlant. Et en général, les nouvelles qui se terminent par un suicide sont des nouvelles assez fortes. Ce n'est pas le cas de toutes les nouvelles de Zweig. Je dis d'emblée, il lui arrive d'écrire des nouvelles plus faibles, plus bavardes, moins resserrées, moins obsessionnelles peut-être, enfin d'économie moins intéressante. Mais vous avez ici l'histoire d'un naufrage. Belle histoire d'un processus qui s'achève par la mort, das Kreuz, la croix, qui se termine par une espèce de suicide d'un soldat français de Napoléon lors de la guerre d'Espagne. L'histoire que vous avez entendue, Amok, que vous connaissez, Mondschein Gasse, se termine pas par un suicide, mais par quelque chose qui y ressemble et qui est annoncé comme un meurtre à venir. Leporella, qui est une histoire fabuleuse que les psychiatres en général aiment beaucoup, parce qu'elle a une dimension un peu cruelle qui est très accrochée dans la cruauté des expériences de la vie. Leporella, c'est pas Leporello, c'est Leporella, c'est le sobriquet qu'a donné à une servante issu du Tyrol lointain, un maître aristocrate, coureur de jupons, etc., dont elle s'éprend secrètement et à qui elle croit rendre un service éminent en empoisonnant son épouse. Donc elle est... Et le mari, au lieu de se réjouir, tout ça est dans une économie assez raide, hein, c'est pas sadique, mais un peu cynique. Le mari la chasse parce que bon, ça lui plaît pas nécessairement, et elle va se jeter, un peu comme cet étudiant, elle va se jeter dans le Danube, elle va sauter du pont et tomber effiler dans les eaux grises, mais elle a rendu au maître l'argent qu'il lui avait payé pour tous ses services, et de la sorte, elle s'est affranchie moralement de tout crime réel. C'est une nouvelle. Et puis il y a l'épisode au bord du lac, au lac de Genève, qui raconte l'histoire d'un soldat russe de la guerre 14-18 qui veut rejoindre son pays, qui est très lointain, c'est la lointaine Sibérie, et qui veut traverser le lac Léman à la nage, en pensant que le lac Baïkal est derrière. Enfin, il n'a aucune idée de la topographie. Et quand il apprend que la révolution de 1917 ayant eu lieu, le tsar n'est plus vivant, le tsar n'est plus le tsar, il va se noyer dans le lac de Genève. Donc vous voyez, c'est un thème absolument important dans son œuvre, pour ne rien dire de ce qui se passe dans le seul roman que Stefan Zweig ait achevé, qui est Beware of Pity en anglais, La pitié dangereuse, ou le titre français, c'est le cœur, j'ai déjà oublié, bon, peu importe. Il y a un titre allemand qui est le vrai titre, bon, et ça me reviendra. Et donc ça se termine par un suicide aussi, au terme d'une histoire beaucoup plus longue qui conclut un projet romanesque beaucoup plus ambitieux. Mais il y a d'autres nouvelles encore où le thème de la mort est présent, et où parfois c'est quasi une mort par suicide. Donc voilà, il y a à la fois la présence de ce thème, et d'autres thèmes sont présents dans cette nouvelle et qui vont jouer un rôle dans l'œuvre de Zweig. D'une part, parallèlement à ce que Freud écrit depuis le début du siècle, des nouvelles qui s'intéressent au psychisme des enfants confrontés au monde des adultes, et ce avec une curiosité et des concepts d'une certaine manière qui sont dans l'épistémé de 1900, qui ne sont pas très éloignés de ce, tout en ne les rejoignant pas, de ce que Freud, par exemple, écrit dans ses trois essais sur la théorie sexuelle ou dans d'autres textes ultérieurs. Et vous avez dans cette petite nouvelle un thème qui est également présent et qui va ressurgir avec violence vers la fin, dans les 10 dernières années de la vie et de la production de Zweig, qui est le thème de l'antisémitisme. Parce que pour un Viennois, il est clair que Lippmann est un élève juif du lycée, et le professeur est catalogué comme n'étant pas juif, et il y a la possibilité, disons, d'une discrète attitude, je dois dire très discrète, mais évidemment ça va revenir dans d'autres œuvres de manière plus claire, mais néanmoins c'est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a, un horizon de réalité assez fort, assez identifiable derrière ces nouvelles viennoises. Toutes les nouvelles ne sont pas des nouvelles viennoises, qui contribuent à leur donner de la force, et certainement qui ont contribué à favoriser des sentiments d'identification, de reconnaissance, de projection dans son lectorat, qui Et c'est le deuxième point dont évidemment il faut parler, par-delà ce petit texte du début, qui est le grand sujet d'étonnement, en particulier des corporations académiques, face au succès considérable de l'œuvre de Zweig, non seulement considérable, mais durable. C'est-à-dire que Zweig vend chaque année beaucoup plus de livres en France que la totalité de tous les auteurs de langue allemande réunis. Et ceci depuis longtemps. Il y a là un sujet d'étonnement qui chez un certain nombre de personnes d'ailleurs, a pris la couleur du dépit. Et chez certains de ses confrères écrivains, même des formes d'envie, de jalousie, de médisance qui s'accrochaient à des aspects du personnage qui pouvaient effectivement être critiquables. Mais voilà. Et je ne veux pas subsumer ce regard uniquement sous l'envie que génère son succès commercial, mais il a été souvent assorti d'un Nebenkommentar, d'un petit annexe, savoir qu'il n'en méritait pas tant. Voyez-vous ? Et ce que j'ai entendu teinté à mes oreilles depuis le début du processus, c'était quelque chose comme comment toi qui as travaillé sur des auteurs difficiles, obscurs, renommés, etc. Bon, en tout cas, bien sanctionné par le système des valeurs. Comme méritant du travail, qu'est-ce que tu vas te fourvoyer dans Stefan Zweig, hein? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cet auteur qui n'est pas un grand auteur, etc., etc. Donc cette petite chanson, je l'ai entendue très tôt, et elle a donné lieu, il n'y a pas longtemps, à un article dans la presse qui était intitulé « Zweig méritait-il la Pléiade ?» Voilà. Et l'ayant entendu de manière précoce et évidemment mû par un désir de justification personnelle, j'ai fait tout ce travail de préparation, d'encadrement, de présentation, etc., de traduction parfois des œuvres, avec une curiosité téléologisée par le désir de trouver des raisons de faire ça, et des raisons de faire ça et de proposer au public une lecture d'œuvres que le public aime déjà, assorties de commentaires, de notes, etc., chose qui ne s'était pas faite jusqu'à présent, ou peu, avec une très très longue préface, etc., comme on fait dans la Pléiade, en rendant à l'auteur les hommages de cette apparence de livre relié cuir et édité sur papier Bible, enfin, que vous connaissez tous. Alors il était facile, bien sûr, de répartir que, de toute façon, dans la collection de la Pléiade, les auteurs de langue allemande étaient de toute façon maltraités depuis toujours, et qu'il n'y en avait que peu, et que, après tout, pourquoi pas justement en mettre un qui avait trouvé le succès dans le public. Deuxièmement, l'un des arguments que j'ai trouvé aisément chez Zweig, et en observant sa vie professionnelle, est le suivant. Zweig est quelqu'un qui, très tôt, gamin, est entré dans l'univers de l'édition. Il était extrêmement culotté. À 17 ans, il écrivait aux auteurs en disant « je lis votre œuvre, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un manuscrit, je les collectionne ». Et à 17 ans, ça a marché. Et ce premier pas franchi, il a continué, il a demandé à les rencontrer, après les uns, les autres, et ensuite il a commencé à écrire des articles sur eux, très très jeune, très très jeune, à 19, 20 ans, à peine sorti du giron maternel. Je rappelle qu'à l'époque, la maturité, comment on appelle ça ? Oui, la maturité en Autriche était à 24 ans, pas à 18 comme en France aujourd'hui. Donc voilà, ce très jeune homme est entré dans l'univers éditorial, a commencé à écrire sur les autres, et même à conseiller aux éditeurs des auteurs qu'il ferait bien d'éditer, qu'il ferait bien de traduire, des auteurs français, anglais, etc. Donc il est devenu un personnage du monde de l'édition, et l'une de ses caractéristiques, quand il a eu acquis suffisamment d'importance, ça a été l'attachement profond qu'il avait à la qualité des livres, la qualité extérieure des livres, à la qualité des titres, du graphisme des titres, de la présentation des couvertures, etc. etc. Et la petite collection de Insel que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui est un très joli travail dont on fait beaucoup de cadeaux de fin d'année, tellement c'est beau, et quelque chose qui est né un peu sous sa gouverne. Enfin, disons, il n'a pas été le seul, mais il était là. Et ce faisant, il a rencontré d'une certaine manière ce qui avait été au principe de la création de la bibliothèque de la Pléiade, c'est-à-dire le désir chez Jean Schifrin de donner au public des livres solides et contenant une grande quantité de textes dans un faible encombrement, donc imprimé sur papier Bible, avec qu'est-ce qui permettait de faire une reliure solide, bien sûr, le cuir. Et donc au départ, c'était dans la perspective de collections populaires, de livres à vendre dans les gares, etc., que la bibliothèque de la Pléiade a été conçue. Ce que voyant les livres, Gallimard et André Gide, surtout, ont compris qu'il y avait de l'avenir. Et ils ont acheté le brevet, en quelque sorte. Ils ont engagé Schifrin. Et on a commencé à avoir des Pléiades, les premières Pléiades que vous connaissez, des numéros 1 à 20, etc. Malheureusement, Gallimard a appliqué à la lettre les lois anti-juives de Pétain et a licencié Schifrin en 1942, et il a émigré. Enfin, c'est une espèce d'infamie, d'une certaine manière, qui a été commise. Et Schifrin est parti, est redevenu éditeur aux États-Unis. Son fils aussi, que je connaissais, sont un grand éditeur très culotté, très audacieux, américain, et il a quitté la vieille Europe. Les Pléiades ont continué leur carrière, mais ont sollicité de plus en plus la plume des spécialistes, des auteurs. Et donc, voilà, il y a eu presque une dérive à un moment. Les livres étaient trop gras, et en particulier les appareils critiques étaient trop abondants. Donc là, actuellement, nous sommes dans une phase où les choses se réduisent un peu. Et Stefan Zweig était précisément un auteur de nature à favoriser justement cette évolution et ce retour aux sources. Il n'est d'ailleurs pas impossible que dans ces pérégrinations d'exilés à partir de 1934, Stefan Zweig ait rencontré Schifrin aux États-Unis en particulier, et d'autres, puisque les 10 dernières années de sa vie ont été passées à fuir et à ne retrouver que des exilés dans les différents pays, Angleterre, États-Unis et Brésil pour l'essentiel. Donc voilà, méritait-il la Pléiade ? Oui, par exemple, pour cette raison-là, mais pas uniquement. Voilà. Donc je me suis trouvé d'autres raisons. C'est pas je me les sois trouvées, mais je les ai trouvées en observant d'un peu plus près, comme quelqu'un qui est en charge de l'édition des textes, qui regarde les traductions, qui fait des notes, qui fait des notices, etc. Donc qui lit un peu plus acribiquement que le traducteur et que le lecteur, et c'est normal. Et donc j'ai trouvé d'autres raisons de répartir à ceux qui posaient la question, méritait-il la Pléiade ? Oui, bien sûr. L'autre raison est un peu connexe de ce que je vous disais à propos de la qualité des livres. C'est que Zweig, c'est mon expérience propre, et celle de tas de gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai posé la question. Zweig est un auteur qui a donné à des millions de gens le goût de la lecture. C'est un ami du livre, mais il a fait aimer le livre par des moyens que certains ont pu trouver un peu séducteurs, mais le résultat est là, bien des goûts de la lecture, des habitudes de la lecture, des désirs de lire ont été engendrés par des premières lectures qui ont pris le relais des livres d'enfance ou d'adolescence et qui ont fait découvrir quelque chose qui était quand même de la littérature. Dans mon cas, le livre qui a joué ce rôle-là dans mon existence, c'est celui qui était intitulé en allemand « Sternstunden der Menschheit », c'est-à-dire « Les grandes heures de l'humanité », les beaux titres d'ailleurs de la première traduction, « Les heures étoilées de l'humanité ». Bon. Il a donné le goût de la lecture, il a fait aimer la lecture, donc il a procuré un plaisir de lire, y compris en racontant des histoires dures, des histoires difficiles, des histoires de frustration, des histoires tragiques, et dont beaucoup s'achevaient par des morts. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que les gens aiment lire ces livres? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit qu'il se passe que les gens trouvent chez lui des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. En particulier, les bénéfices de l'empathie psychique, qui souvent est traitée par l'ellipse dans beaucoup de documents littéraires. Hein. C'est-à-dire qu'on fait confiance au lecteur pour remplir une ellipse de l'imaginaire psychologique qui peut faire passer d'un élément à un autre. Alors que Zweig, et donc il a été estimé bavard à cause de ça, Zweig est quelqu'un qui fait le tour des différentes phases par lesquelles passe un esprit qui, comme dans le cas de cette nouvelle, parcourt une histoire intérieure violente dans laquelle se culbutent des affects, des souvenirs traumatiques, des éléments de rationalisation, des bribes de monde extérieur, etc. etc. Et Zweig est quelqu'un qui a appris très tôt, j'insiste sur ce point, parce que par ailleurs, et ça je vous en parlerai dans un petit moment, il y a des échecs aussi chez Zweig, mais quelqu'un qui a appris très tôt à dire cela, je ne vais pas dire à raconter cela, mais à dire cela. Car cela ne vaut pas que pour un redoublant, ein Verbummelter, hein, et ce n'était pas traduisible autrement selon moi. C'est un terme très, très, presque du jargon étudiant chaque fois qu'on va chercher dans le vocabulaire étudiant français, on est quand même un pas à côté du sens. Bon. Mais il y a, par exemple, la croix d'une nouvelle, même l'étoile au-dessus de la forêt, qu'on peut trouver un peu niant, parce que c'est cette histoire que ce garçon d'hôtel qui tombe amoureux d'une comtesse polonaise, qu'on imagine blonde à souhait, etc., parfumée et tout, découvrant l'échec d'amour, décide de se donner la mort et va se coucher sur les rails et meurt à l'instant où passe au-dessus de lui le wagon dans lequel se trouve la comtesse, alors qu'elle est en train de lire un passage de l'éducation sentimentale. On peut se dire que c'est chargé, mais le lecteur est intelligent et quand c'est chargé, et il serre les bretelles et puis voilà, il porte. Hein. Et il continue, il avance avec le texte. Ce ne sont pas des charges qui lui font lâcher le livre. Et c'est ça le critère. De même qu'au théâtre, les gens restent assis et attendent que le rideau tombe. Et voilà, le lecteur va jusqu'au bout. voilà, il y a ce talent qui se combine avec la modernité parfois des thèmes exploités, une certaine liberté dans la façon d'aborder certaines questions, un recours tout à fait de bonne cuisine aux épices érotiques qui évidemment font toujours partie des nouvelles, enfin souvent font partie des nouvelles, et également un art qui tient le lecteur en haleine, un art du suspense, hein, qui met en place dès le début des nouvelles, et ça, Zweig l'a appris chez Balzac, il l'a appris dans ses lectures françaises, hein, qui tient le lecteur en haleine et qui fait qu'il attend, à partir du moment où des contradictions ont été mises en place, il attend la résolution des contradictions, et puis il ne lâche pas le livre tant qu'il ne sait pas où c'est allé. Et comme le livre en général n'est pas très long, mais suffisamment long pour que le plaisir dure, voilà, il y a cette qualité. Il y a associé à cela une aptitude plus grande que chez nombre d'auteurs à faire parler les voix féminines dans des nouvelles et à faire usage des qualités d'attention à ce qui se passe qui souvent sont le fait des observations féminines dans la vie sociale en général, dans la vie. Et on a constaté, évidemment, on a fait des enquêtes statistiques pour savoir quel était ce lectorat si abondant. On a constaté qu'il y avait une majorité de lectrices. De toute façon, il y a une majorité de lectrices pour les livres. Alors, c'était déjà donné et c'est potentialisé chez Zweig par ce dont je vous parlais à l'instant. Je veux quand même parler un peu de ce qui a manqué à Zweig avec ce talent phénoménal au départ. Je crois qu'il a été victime de ce talent. C'est-à-dire que il avait un modèle qui est celui de la réussite d'un homme de lettres à la fin du 19e siècle. À l'époque, réussir, ça signifiait pas écrire des nouvelles, être présent dans la presse, être présent dans les salons, dans les discussions, etc. Écrire un roman, écrire une pièce de théâtre, écrire un livret d'opéra, écrire et être un peu polygraphe. Et donc, c'est ce qui lui est arrivé. Son talent d'écriture lui permettait d'écrire sur ses genoux dans les trains. Donc il n'arrêtait pas de voyager. Il n'arrêtait pas de prendre le train et d'écrire dans le train et d'écrire dans les hôtels et de dicter, au bout d'un certain temps, parce qu'au début, ça, c'était compliqué, mais il emmenait souvent sa secrétaire avec lui, qui tapait les textes. Enfin bon, il dictait des lettres, une correspondance fabuleuse, plus de 500 lettres à Romain Rolland et des centaines de lettres aux autres, enfin une correspondance considérable qui est un document historique important. Des biographies, lesquelles impliquaient des lectures préalables, même si elles étaient faites assez rapidement. Des biographies historiques qui sont connues, Fouché, Marie-Antoinette, Magellan, Calvin, etc. Des études sur des auteurs, sur Balzac, sur Montaigne, très 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 beau texte inachevé sur Montaigne qui a été traduit, je crois, en français, un des grands textes écrits sur Montaigne. Voilà, c'est à la veille de la mort, enfin justement dans cette atmosphère néo-stoïcienne qui précède le suicide. Bon, des pièces de théâtre. Qui dit pièce de théâtre dit monter la pièce, discuter avec les metteurs en scène, les comédiens, négocier avec le théâtre, gérer les embrouilles diverses, gérer les morts subites des comédiens qui étaient fréquentes. Tout ça prenait du temps. au bout d'un certain temps, faire des conférences de nature politique liées à 14-18, d'abord des conférences pacifistes en Suisse, puis ensuite invité partout. Il est allé rencontrer Gorky en Italie, il a été invité par l'Union soviétique, il est allé là-bas, il est allé aux États-Unis, il est allé en Argentine, etc. Jeune, il était allé en Inde. Bon, vous voyez, c'était un voyageur, un bourlingueur. Etc. Et donc, il s'est... par rapport à d'autres, par rapport à son collègue et ami et concurrent, Joseph Roth, par exemple, il a suivi une ligne tout à fait différente. Parce que Roth est aussi un journaliste, hein, un grand journaliste, mais moins dispersé malgré tout dans des tas de fonctions que Zweig. Et ce qui me fait dire ça, c'est que Zweig, qui est arrivé donc à finir un roman, dont le titre est « L'impatience du cœur », il m'est revenu, Ungeduld des Herzens, voilà, ce qui n'est pas seulement d'ailleurs l'impatience, mais enfin c'est tout un peu copié d'un titre de Wassermann consacré à Kaspar Hauser. Hein. Il a essayé d'écrire d'autres romans, donc il a commencé deux romans qui manifestement étaient des romans dans lesquels il tirait les leçons de son existence d'auteur, dans lesquels il essayait de faire autre chose. Donc c'est Clarissa et Ivresse de la métamorphose, c'est-à-dire d'introduire enfin la question sociale dans son œuvre, ce qui était pratiquement toujours absent de ce qu'il avait écrit précédemment. Et le faisait un peu critiquer par l'aile gauche du monde des lettres de l'époque. Et non seulement la question sociale, mais la question de la guerre, tout en gardant le bénéfice de sa compétence psychologique antérieure. Et ses romans, il les a traînés avec lui comme des ateliers ambulants dont il n'arrivait pas à se défaire, auxquels il avait de moins en moins les moyens de travailler correctement, puisqu'il était, à partir de 1934, coupé des ressources qu'auraient pu être tout simplement les collections de journaux en France, enfin, et surtout, bien sûr, en Autriche et en Allemagne. Voilà. Et donc, on peut le regretter, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, et ça ne l'empêche pas d'être un auteur lu, et ça n'a pas empêché qu'il soit un auteur lu pour de bonnes raisons. Et donc, c'est avec une joie profonde que j'ai vu s'achever le travail sur ces deux volumes sans aucun des regrets que l'on aurait pu me promettre au départ. C'est, outre tout cela, c'est aussi une lecture qui est enrichissante en ce sens que, et surtout aujourd'hui où on a les moyens de cliquer très rapidement sur Internet pour savoir qui est un tel, hein, de quoi parle-t-il, de qui parle-t-il. Enfin, il est facilement le noyau d'un hypertexte très acculturant, plus que d'autres. Plus que Thomas Mann et plus que Joseph Roth et plus que d'autres. Voilà. Donc, je continue de recommander sa lecture à quiconque, aux jeunes comme aux moins jeunes. C'est 40 de 16, jamais d'apprendre.